Bonjour, en ce jour de Noël, nous irons au Vatican où Benoît XVI vient d'adresser son message de Noël et sa bénédiction Urbi et Orbi. Nous irons aussi à Bethléem en Cisjordanie où des milliers de pèlerins sont venus fêter Noël également. On n'y avait jamais vu une telle affluence depuis de nombreuses années. Nous irons encore à l'aéroport parisien de Roissy où quelques 200 voyageurs ont été contraints d'y passer la veillée de Noël bloqués par la neige. Nous parlerons de la justice américaine qui, après UBS, s'intéresse aux banques cantonales. Certaines auraient aidé, elles aussi, de riches Américains à échapper au fisc. Nous évoquerons aussi cet argent frais pour les infrastructures ferroviaires dans l'arc jurassien. Une manne fédérale qui va permettre d'y poursuivre la modernisation du réseau, c'est ce que nous dira Gaël Klein, notre correspondant à Delémont. Et 15 minutes est à Gilo aujourd'hui, entre Israël et la Cisjordanie, où un mur qui visait à protéger les Israéliens des tirs palestiniens est tombé, mais les frustrations sont toujours bien présentes, car un autre mur continue de serpenter dans les collines de Cisjordanie. D'un mur à l'autre, c'est le reportage d'Aude Markovitch à écouter dans un peu plus d'une dizaine de minutes. Le ciel restera très nuageux cet après-midi, hormis quelques éclaircies, surtout en Valais. Une bise glaciale s'est levée sur le plateau, les températures chuteront à moins 4 degrés en fin d'après-midi. Demain sera bien ensoleillé et froid. Un être doux, en revanche, est attendu en montagne dès lundi. Les prévisions complètes de Sébastien Dupéret en fin de journal. Benoît XVI vient donc tout juste d'adresser son message de Noël et sa bénédiction Urbi et Orbi du balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome. Un moment évidemment important pour les chrétiens. Ils étaient nombreux d'ailleurs sur la place Saint-Pierre pour écouter le chef de l'Église catholique. Rome, où nous vous rejoignons en direct, Jean-Baptiste Venditti.
Oui, écoutez, il y avait beaucoup de monde sur la place Saint-Pierre et les parapluies étaient ouverts car il pleut à Rome. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire de ce message, c'est qu'il comportait trois mots-clés. Réconfort, paix, justice, mais aussi liberté de culte. Car Benoît XVI a pensé à tous ceux qui, en Chine notamment, sont limités dans leur liberté de religion et de conscience. Vous savez qu'il y a un conflit entre l'Église de Chine, l'Église officielle, et le Saint-Siège, qui ne la reconnaît pas. Et il y a un dialogue difficile entre les deux. Mais Benoît XVI pense également aux Haïtiens, qui souffrent encore des conséquences du tremblement de terre. Le pape appelle également les deux Corées à la réconciliation et il n'oublie pas dans son message de souligner le besoin de stabilité politique en Côte d'Ivoire. Dans le cœur du pape, il y a aussi les difficultés rencontrées au quotidien par les jeunes, les adultes et les personnes âgées, tous confrontés à la recherche d'une vérité qui donne un sens à leur vie. Cette vérité, c'est Dieu, dit Benoît XVI, Dieu comme le levain de l'humanité et sans lequel la force qui fait avancer le véritable développement ferait défaut. Dieu, dit encore Benoît XVI, qui est l'élan pour collaborer au bien commun, pour travailler au service du prochain et qui encourage à la lutte pacifique pour la justice. Voilà ce que l'on peut dire de ce message qui a été prononcé il y a quelques instants place Saint-Pierre par Benoît XVI, le pape qui vient tout juste de finir d'exprimer ses vœux de Noël cette année en 65 langues.
Jean-Baptiste Venditti en direct donc de Rome et à Bethléem en Cisjordanie, le berceau de la chrétienté. Des milliers de pèlerins sont venus également fêter Noël. La messe de minuit a été célébrée comme chaque année par le patriarche latin de Jérusalem dans l'église Sainte-Catherine. Et nous sommes avec Benjamin Barthes, vous êtes notre correspondant dans les territoires occupés. Ce que l'on peut dire, c'est que de mémoire en tout cas d'habitants de Bethléem, on n'avait pas vu une telle affluence dans les rues de la ville depuis de très nombreuses années.
Oui, effectivement, la place de la Mangeoire qui est devant l'église de la Nativité, l'église Sainte-Catherine où la messe de minuit a été célébrée hier soir, cette place est noire de monde, remplie de touristes, de pèlerins, de toutes les nationalités, sur toute la période des fêtes qui s'étend à Bethléem, en Terre Sainte, jusqu'à la fin du mois de janvier, car il y a le Noël catholique aujourd'hui, le Noël orthodoxe le 6 janvier et le Noël arménien deux semaines plus tard. Bref, sur toute cette période de fêtes, environ 90 000 touristes sont attendus, c'est un chiffre très important. La fréquentation touristique en 2010 en Palestine est en hausse de 75% par rapport à 2009. Alors bien sûr, pour l'occasion, Bethléem s'est mis tout en beauté avec des guirlandes, des illuminations, des sapins géants. Aujourd'hui encore, les touristes, les pèlerins pourront assister à des concerts, des parades. On a le sentiment que la convalescence post-intifada est terminée et que la ville de Bethléem a définitivement guéri de ces années de violence qui avaient tué le tourisme.
Alors on peut parler de regain économique, mais sur le plan politique, rien n'a changé finalement. Le poids de l'occupation israélienne est toujours aussi fort.
Oui, bien sûr, et cette occupation, elle s'impose à la vue des touristes et des pèlerins. À peine sont-ils rentrés dans Bethléem, puisqu'il y a ce fameux mur de séparation en béton, 8 mètres de haut, qui encercle la ville. Et puisqu'on parle de tourisme, un exemple parlant, il faut savoir par exemple que les guides palestiniens n'ont pas le droit de rentrer à Jérusalem, quand bien même Jérusalem, la ville des trois religions, est évidemment le pôle d'attraction numéro un des touristes en Terre Sainte. Il y a 185 guides palestiniens licenciés par le ministère du tourisme palestinien et seulement 42 d'entre eux ont un permis délivré par Israël pour rentrer à Jérusalem. 42, c'est évidemment un chiffre dérisoire par rapport aux 7000 guides israéliens qui peuvent circuler à leur guise dans le pays. Alors comme d'habitude, Israël a assoupli quelques-unes des restrictions qui pèsent sur les Palestiniens. Les chrétiens ont reçu des permis pour pouvoir circuler entre Ramallah, Bethléem, Jérusalem. Il y a 500 chrétiens de la bande de Gaza qui ont reçu le droit exceptionnel de sortir de l'enclave de Gaza pour se rendre en Cisjordanie. Mais ces mesures sont légères, très légères et surtout très temporaires. Elles ne changent pas grand-chose à la situation générale. La situation d'une ville dont le développement est étouffé par le mur, par les checkpoints, les barrages militaires, par les colonies aussi. Il y a un chiffre intéressant sur l'ensemble des terres du gouvernorat de Bethléem. Seulement 13% de ces terres sont sous le contrôle des Palestiniens. Le reste est sous l'emprise des colons de l'armée israélienne.
Alors c'est une situation, on l'imagine, qui doit accentuer le malaise des chrétiens palestiniens qui sont pour certains tentés d'émigrer à l'étranger.
Mais écoutez, oui, bien sûr, il y a un sentiment diffus de malaise, de gêne qui transparaît très vite dans les témoignages des chrétiens locaux. Il est dû à deux choses principalement. Ce malaise, d'une part, le statut de minorité qui est que beaucoup d'autres minorités dans le monde connaissent. Et puis il y a plus largement, de façon plus importante, sûrement la pression de l'occupation. On vient d'en parler, les difficultés de voyager. Et puis pour beaucoup de chrétiens aussi, un sentiment de déclassement social dû justement aux difficultés de l'occupation. Tous ces éléments s'additionnent pour pousser de plus en plus de Palestiniens chrétiens vers l'étranger, vers les États-Unis, le Canada, l'Australie, deux pays qui distribuent assez facilement des visas d'immigration. Et il y a cette phrase qu'on entend souvent dans la bouche des chrétiens palestiniens, c'est la crainte que les églises de Terre Sainte ne deviennent lentement mais sûrement des musées.
Et nous étions donc avec Benjamin Barthes, notre correspondant dans les territoires occupés. Le trafic aérien revient à la normale à l'aéroport parisien de Roissy après les perturbations liées au froid et à la neige. Hier d'ailleurs, 200 voyageurs s'y sont retrouvés bloqués hier soir encore pour la veillée de Noël. Une distribution de peluches, de chocolats et de jouets pour les enfants y a été organisée à l'occasion. Je vous propose le reportage de Pierre-François de Courcelles de Radio France.
Pour les passagers coincés dans le terminal 2F de l'aéroport Charles de Gaulle, pas de cheminée ni de lit douillet cette année, mais des lits de camp installés par la sécurité civile. Le vol de Béatrice pour la Tunisie a été décalé de 24 heures avec son mari et ses deux enfants. Elle s'apprête donc à se glisser sous sa couverture.
On a été accueillis très très bien, on a à boire, à manger, donc je pense qu'on va passer une bonne nuit. C'est pas grave. C'est bien, c'est une expérience aussi, c'est bien.
Ça fera des souvenirs pour les
oui,
enfants.
Oui, les petits sont contents de camper, surtout le soir du 24 décembre. Donc voilà.
Comme Béatrice, la plupart des passagers sont restés calmes, résignés et amusés à la fois. Et pour cause, l'aéroport de Paris a tout fait pour faire passer la pilule. L'espace d'une heure, les hôtesses d'accueil se sont même transformées en Mère Noël.
J'ai des jouets pour les petites filles. C'est des petites marionnettes dans une petite pochette.
Les petits sont ravis, évidemment.
Thank you so much.
Autre tradition respectée, celle de la messe de minuit célébrée en début de soirée dans une salle de réunion. Parmi les fidèles, Sylvie, elle devait assister à la messe de minuit au Vatican.
Mon embarquement a été retardé, alors je profite de cette annonce pour pouvoir prendre un petit peu de messe. C'est une très très bonne initiative.
Le père Truptil qui officie semble lui visiblement surpris de la dizaine de caméras de télévision qui filment son arrivée.
C'est un peu spécial ce soir, c'est vrai. Ce qui compte, c'est quand même la joie de se retrouver, la joie de formuler des vœux, la joie de se souhaiter une joyeuse Noël. Enfin, il n'y a pas que la consommation, le marchandage, enfin le foie gras, les huîtres.
Et pour les huîtres et le foie gras, il faudra en effet patienter encore un peu, attablé dans un snack du terminal. Victoire fête Noël avec un sandwich.
Super. Il n'y a pas de dinde, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de caviar, il y a des sandwichs, il y a du jus de pomme, jus de fruits, voilà. Mais bon, voilà, on fait avec, hein, on fait avec.
Et une veillée de Noël, donc pour le moins inattendue, inhabituelle en tout cas à l'aéroport de Roissy.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Lausanne-Vevey, la voie de gauche est bloquée par un véhicule accidenté entre l'échangeur de Villars-Sainte-Croix et la jonction de Lausanne-Blecherette en direction donc de Vevey. L'âge de la retraite des pilotes de Suisse passera de 57 à 58 ans dès l'an prochain. Les pilotes d'Airbus pourront même travailler jusqu'à 60 ans. C'est le résultat d'un accord passé entre le syndicat des pilotes et la compagnie aérienne helvétique, des mesures qui doivent permettre notamment d'atténuer la pénurie de personnel. De l'argent frais pour les infrastructures ferroviaires dans l'arc jurassien. Les chambres fédérales ont récemment débloqué de nouveaux fonds pour ces deux prochaines années. Pour l'ensemble du pays, les CFF recevront ainsi 140 millions de francs supplémentaires et les compagnies de chemin de fer privées 59 millions. Conséquence directe pour l'arc jurassien, cette manne fédérale va permettre de poursuivre le rattrapage entamé il y a plusieurs années de la modernisation du réseau. Gaël Klein.
Les responsables des transports attendaient ce coup de pouce bienvenu. Le réseau ferroviaire a atteint ses limites en termes de capacité. La mobilité a des besoins qui vont encore augmenter. Il faut pouvoir mettre en œuvre rapidement de nouvelles solutions afin d'absorber le trafic. Dans le Jura, les enjeux sont particulièrement importants. À un an de l'ouverture d'une nouvelle ligne TGV à quelques kilomètres de la frontière, le délégué au transport du canton du Jura, David Asseo.
Ça nous permet de moderniser et un certain nombre de gares en particulier afin qu'elles puissent accueillir du nouveau matériel roulant que nous prévoyons d'introduire courant 2012 entre Bienne et la frontière française dans la perspective, un ou deux ans plus tard, d'aller jusqu'à Belfort. Et donc les 1,4 millions de francs que les CFF ont prévu d'investir en 2012 sont pour nous le bienvenu et compléteront les sommes qui sont déjà débloquées pour l'équipement de la ligne entre Porrentruy et la frontière française.
Du côté des chemins de fer privés, on apprécie aussi ce nouveau soutien des autorités politiques. Le directeur des chemins de fer du Jura, Georges Brugnard.
Oui, là, je dois le saluer. Ça nous encourage aussi dans les investissements. Et puis, c'est aussi un signal fort pour dire que le chemin de fer, le transport public en général, les chemins de fer en particulier, sont encore soutenus par nos différents responsables politiques, que ce soit bien au niveau fédéral qu'au niveau cantonal. Nous avons affaire, nous, à quatre commanditaires, là où l'Office sur les transports, et puis les cantons du Jura, Berne et Neuchâtel. Et ça, c'est aussi un coup de pouce aussi pour ces commanditaires, parce qu'on a de grands besoins d'investissement pour ces quatre prochaines années, en tout cas.
Les chemins de fer du Jura et leur train rouge prévoient d'ailleurs la transformation de plusieurs gares dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, ainsi que l'achat de nouveaux matériels roulants.
Les banques cantonales suisses, à leur tour dans le collimateur de la justice américaine. Selon le New York Times, elles soupçonnent ces établissements d'avoir aidé bon nombre de riches américains à échapper au fisc des États-Unis. Et l'enquête se concentrerait en particulier sur la banque cantonale de Bâle. Les précisions de Philippe Gasso de Washington.
Après un peu plus d'une année d'enquête, la justice américaine serait arrivée à la conclusion que de gros contribuables pour échapper aux impôts auraient utilisé la banque cantonale pour faire passer leur argent en Suisse. Les contribuables américains concernés pour échapper à une identification toujours redoutée après les exigences américaines auraient effectué cette fois des transferts groupés, donc anonymes. Et ce sont les banques suisses qui s'en seraient chargées en utilisant comme coffre-fort différentes banques américaines où étaient placées les sommes à regrouper, puis à virer en Suisse. Il y aurait aussi complicité de plusieurs établissements bancaires de Wall Street, ce qui reste à prouver, des sociétés qui fournissaient des services bancaires aux banques régionales suisses. Le New York Times, qui sort l'affaire, affirme qu'une enquête pénale américaine a été ouverte à propos des banques régionales et que la banque cantonale de Bâle est particulièrement dans le collimateur de la justice américaine. C'est une affaire à suivre. Philippe Gasso, Radio Suisse Romande, Washington.
Attentat suicide au nord-ouest du Pakistan. Au moins 41 personnes ont été tuées ce matin et plus de 60 autres blessées lors d'un attentat contre un centre de distribution alimentaire du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Un centre où des centaines de personnes fuyant les combats s'étaient rassemblées pour recevoir de la nourriture. Et le ministre français de la Défense, Alain Juppé, est arrivé en fin de matinée en Afghanistan. Il doit y visiter les troupes françaises à l'occasion des fêtes de Noël. Environ 3850 soldats français sont déployés dans ce pays. Une visite de 48 heures, la première dans ce pays pour le nouveau ministre qui doit également rencontrer demain à Kaboul le président Hamid Karzai. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont menacé hier de déloger par la force Laurent Gbagbo qui se maintient à la présidence de la Côte d'Ivoire malgré les appels incessants de la communauté internationale à céder le pouvoir à Alassane Ouattara. C'est la première fois depuis le début de la crise issue de la présidentielle du 28 novembre que Laurent Gbagbo se trouve ainsi directement sous la menace d'une opération militaire destinée à renverser son régime. Et puis un seul joueur de l'Euromillion a trouvé les 5 bons chiffres et les 2 bonnes étoiles hier soir. Il empoche un peu plus de 24 millions de francs.
15 minutes. Le magazine de reportage de la rédaction.
Un mur est tombé cette année entre Israël et la Cisjordanie. À Gilo, à la périphérie de Jérusalem, ce mur visait à protéger les Israéliens des tirs palestiniens. Mais de l'autre côté, à Beit Jala, les frustrations n'ont pas disparu pour autant, car un autre mur continue de serpenter dans les collines de Cisjordanie. D'un mur à l'autre, c'est un reportage d'Aude Markovic. Réalisation est signée Sandro Lichi et Ismaele Gonzato.
Over. עכשיו יריות על שכונת גילו בירושלים, וצהל מגיב בירי מקלעים לעבר בית ג'אן.
Donc, c'est des plaques de béton qui sont posées les unes à côté des autres verticalement.
Absolument. Et puis qui sont là pour protéger les gens. Parce que là, c'était un endroit dangereux, quoi.
Mais donc ça, ils ont enlevé en combien de temps le mur ?
En 2 jours. Ben, ils ont amené les panneaux sur des grands camions et c'est tout. Ils les ont soulevés, ils les ont posés et puis c'est tout.
Du moment que le mur n'existe plus, tout à coup, madame, vous voyez de nouveau vos voisins. Alors qu'est-ce que ça vous fait de redécouvrir qu'il y a des voisins palestiniens juste en face de vous ?
Ça me fait très plaisir de voir un paysage plutôt que de voir des murs, parce que les murs, c'est jamais rien de... C'est jamais réjouissant de voir un mur, c'est toujours mieux de voir un joli paysage. Même si on avait dessiné sur les murs pour leur enlever un peu de leur rigidité.
Oui. Jeanne Ifla vit à Guilo depuis une vingtaine d'années. Cette ville champignon de 40 000 personnes a été construite à la périphérie de Jérusalem, au-delà de la ligne verte, c'est-à-dire en territoire palestinien.
Avital Lebovitch est porte-parole de Tzahal.
Ces dernières années, il y a un processus de stabilisation de la situation sécuritaire en Judée-Samarie. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est la construction de la barrière de sécurité, dont les 3/4 ont été terminés en 2006. À partir de là, les candidats aux attentats suicides qui tentaient d'entrer ont cessé de le faire. 2006 a été la dernière année où des candidats aux attentats suicides sont entrés en Israël. La deuxième raison est la concentration de nos efforts pour rechercher les terroristes. Par exemple, on sait grâce à nos services de renseignement que dans un certain village, dans une certaine maison, il y a un entrepôt d'armes et on sait comment se rendre à cet entrepôt et arrêter le terroriste. Mais le danger est toujours là. Parce que nous voyons que presque une fois par mois, dans un point de passage, on arrête quelqu'un portant une ceinture d'explosifs sur lui. C'est pour ça que je dis que la situation s'est stabilisée, mais pas qu'elle est devenue toute rose. Nous espérons beaucoup que ça va continuer comme ça, parce que nous nous souvenons tous de cette époque où nous craignions de monter dans un autobus, parce qu'on ne savait pas si on allait arriver sain et sauf, ou si nous allions exploser en cours de route.
Voilà, là en face on a Bethléem. De ce côté-ci c'est Beit Jala. Et vous voyez, regardez, je vous montre même des traces quand on a eu des coups de feu là qui sont venus. Et là on a aussi des.
Donc on voit que le mur de votre maison, il y a de la pierre qui est partie à plusieurs endroits. Et ça c'est donc.
Des vestiges des attentats qu'on a subis quoi. Mon père avait été blessé, en l'occurrence. Mon père, il se trouvait ici dans l'escalier. Là, ici, dans cet escalier-là. La balle est rentrée par là.
Donc, par la vitre.
Oui, les vitres, elles n'étaient pas encore protégées. Enfin, c'était des vitres tout à fait normales. Il a été blessé. Il a reçu une balle dans le dos à 3 cm du cœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Un peu plus loin dans Guilo résident Norman et Lola Cohen, qui ont émigré d'Angleterre.
C'était très perturbant. Nous savions pourtant que nous n'étions pas en danger parce que nous vivons à l'intérieur de Guilo. Mais c'était très désagréable et le bruit était constant. Le chien était terrifié et la nuit, quand nous étions couchés, le lit tremblait et bougeait.
Vous pensez qu'il faudrait que le mur disparaisse seulement au moment où la paix viendra. Et pourtant, en ce moment, ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas d'attaque ici à Guilo. Pourtant, vous ne vous sentez pas encore en paix avec les voisins.
Comme je vous l'ai raconté, je suis un ancien soldat de l'armée britannique et j'aime l'expression « fin des hostilités ». Ce qui est un concept très différent que « paix ». La fin des hostilités signifie que vous ne vous tirez pas dessus, pas que vous vous aimez. C'est la situation que nous avons actuellement. Mais je pense que les choses sont prématurées. Obtenons d'abord la paix et alors je serai parmi les plus enthousiastes à voir le mur tomber. La paix, ce serait de pouvoir, comme nous le faisons auparavant, retourner à Bethléem pour faire nos courses.
Donc vous n'allez plus aujourd'hui, ni à Beit Jala, ni à Bethléem.
Ah non, je ne vais plus. Je ne vais plus d'abord. Mais avant, j'allais. J'allais, j'adorais même aller parce qu'ils ont des trucs qui sont tout à fait particuliers d'artisanat, etc., qui étaient très intéressants. C'est dommage. J'amenais mes amis, des fois, chrétiens qui venaient, je les amenais à Bethléem, là où est né Jésus-Christ. C'était un plaisir, c'était une façon comme une autre de se balader un petit peu. Et puis... Mais maintenant, non, je dis la vérité, non.
Donc maintenant, Israël a décidé d'enlever ce mur, de le déconstruire.
Ils ont tort. Non, non, ils ont tort. Moi, je suis pour le maintien de ce mur parce que ça donne une certaine sécurité, une relative sécurité.
Mais aujourd'hui, la situation est particulièrement calme. Il n'y a pas eu de tir depuis longtemps. Alors pourquoi est-ce que ça vous gêne le fait qu'ils aient enlevé ce mur ?
Parce qu'on est calme, parce que justement, il y avait le mur.
De Gilo pour aller à Bethléem, il y a une route qui est ce qu'on appelle la route des tunnels. C'est une nouvelle route construite qui rejoint les colonies les unes avec les autres, la route 60. Et là, on vient de passer le checkpoint, donc on se trouve déjà en zone palestinienne.
Voilà, nous sommes maintenant à l'entrée de l'église. Regardez le façade de l'église. L'entrée blanche, c'est l'entrée royale. Depuis le temps de Justinien, 6e siècle...
Louis-Michel, vous étiez là aussi à l'époque de la deuxième intifada. Comment est-ce qu'était la situation et comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le développement de Bethléem? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme comparaison entre cette époque?
Parce que l'État n'a pas de travail. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai gardé d'argent à la maison? C'est tout fini. J'ai nul. Je commençais des zéros à 2006 jusqu'à aujourd'hui. On peut dire la vérité que la ville de Bethléem... 85% de l'économie qui vient de Bethléem, c'est vient du tourisme. Ce n'est pas tourisme, ce n'est pas un bon travail. Pour ça, imaginez, pendant l'intifada, on peut dire à partir de 2001 jusqu'à 2005, on a nul de travail. On reste tout le temps à la maison. L'église qui était comme un désert, vide, pas de touristes. Sauf on trouve quelques journalistes, les restaurants sont fermés, l'hôtel sont fermés. On a beaucoup de travail. Mais commence le touriste à retourner à la ville après être une situation plus calme. À partir de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mais on voit beaucoup de touristes, mais qu'est-ce qu'on voyait maintenant devant votre yeux? Ce sont des touristes qui sont arrivés pour la journée et passer 6 jours en Égypte, un jour à Bethléem, ou 6 jours à Jordanie et 2 jours à Bethléem.
Ça veut dire qu'ils ne dorment pas à Bethléem?
Voilà, voilà, ça que je veux dire, qu'on voit des touristes, mais dont 10% de la travail de Bethléem, 10% de l'économie, parce qu'elle vient visiter l'église, arrêter dans un magasin. Après, s'en va. Nous, on voudrait les touristes qui viennent et restent à Bethléem. Pas qu'on vient à une station de bus, vient après s'en va. Aucun de problème, parce que nous avons des policiers qui sont spécialisés pour le tourisme, qu'on va là-bas. Ils sont les touristes dans une bonne situation, que les touristes qui peuvent passer la nuit toute seule, aucun qui est ennuyé. On n'a pas de check, il n'y a pas de pickpocket ici. Ils donnent les aides pour les touristes qui quelqu'un a perdu. Il y a des offices pour les policiers qui travaillent 24 heures, ça pour les touristes.
On laisse le guide Louis-Michel dans l'église de la Nativité pour rejoindre Myriam Azizé à l'office du tourisme de Bethléem.
Et on est très content parce que depuis 3 ans, c'est développé ici à Bethléem. Le tourisme s'est développé beaucoup ici.
Donc depuis 3 ans, ça fait depuis 2007, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le tourisme se développe comme ça depuis 2007?
Peut-être c'est la promotion parce que le ministère du tourisme travaille beaucoup à faire...